Voilà. Bonjour à chacun d'entre vous. Est-ce que vous allez bien? Je sais que c'est l'heure un peu de la digestion, mais au travers des chants, on s'est mis debout, on s'est mis assis. Normalement, ça va aller. Est-ce que vous êtes heureux d'être là pour cette convention chrétienne des Cévennes? En tout cas, ça fait depuis moi l'année dernière qu'on a pu y participer et depuis ben, vendredi avec les jeunes hier et même encore ce matin, on a pu y assister et on est très heureux d'être là. On a eu différents messages, en tout cas le premier message nous parlait d'un regard biblique sur la souffrance. Oui, il y a de la souffrance, oui, il y a la souffrance qui est là, mais on a un Dieu, le Dieu de toute consolation. Ce matin, le pasteur Christophe Desplanques nous a rappelé que oui, malgré la souffrance, malgré les épreuves, on peut avoir une espérance et un espoir en Jésus-Christ. Et cet après-midi, le thème, toujours joyeux dans l'épreuve, mais avec cette question, peut-on être joyeux lorsqu'il y a l'épreuve? On va y répondre, mais avant cela, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme d'un certain âge qui s'était fait remarquer tout autour de lui par la joie sereine qu'il avait. Cependant, ceux qui le connaissaient savaient que ben, cet homme a été marqué dans sa vie. Cet homme était assailli par de lourdes épreuves. Ses ressources étaient insuffisantes. Sa femme, même forte, fort affaiblie, ne sortait plus depuis pas mal de temps. Malgré tout, cet homme était toujours joyeux. Et son voisin, qui l'interpella un jour, lui a dit, mais comment ça se fait? Vous avez l'air d'être tout le temps heureux, mais comment cela est-il possible? Depuis combien de temps vous êtes heureux? Et là, l'homme réfléchit et dit, ça fait depuis quelques années qu'il y a ce bonheur en moi. Depuis quelques années, c'est au moment où j'ai donné mon cœur à mon Sauveur Jésus-Christ que le bonheur, la joie a envahi mon cœur. Et là, il s'est remémoré un chant qu'il entonnait à l'époque, depuis que Jésus est venu habiter mon cœur. C'est dans ma vie, j'ai vu se réaliser le bonheur. Tous mes péchés ont disparu, c'est la paix et la joie chaque jour. Tenu par sa main, je suis son chemin et j'attends son retour. Cet homme commençait à entonner ce chant en se rappelant des souvenirs, mais se rappelant aussi de toutes ces années où il y a eu la souffrance, où il y a eu des difficultés, où il y a eu des épreuves dans sa vie, mais où Jésus-Christ est venu combler son cœur. Et le voisin lui reposa une autre question. Mais n'y a-t-il eu aucun nuage dans votre vie? C'est bien beau, vous me dites que Jésus est venu habiter votre cœur, Jésus a pris l'entièreté de la place dans votre cœur, mais il n'y a jamais eu de nuage après. Des nuages, dit l'homme d'un certain âge, en regardant sa femme alitée, va répondre à son voisin, des nuages. J'en ai eu. Des nuages, j'en ai toujours. Mais il va dire cette phrase, s'il n'y avait pas de nuages, d'où viendraient les pluies bienfaisantes qui sont dans ma vie? S'il n'y avait pas les nuages, d'où viendraient ces pluies bienfaisantes qui me comblent de grâce et qui me comblent de bénédiction? Et cet après-midi, si on est là, si toi tu es présent, peut-être il y a un cœur qui vit des nuages, mais qui a besoin d'une pluie bienfaisante dans sa vie. Supporter les épreuves, les souffrances avec une joie intacte est un véritable défi pour chacun d'entre nous. Qu'on soit croyant ou que l'on ne l'est pas, ces épreuves touchent notre vie. Et comment avoir une joie intacte? Ces épreuves, dans la première épître de Pierre, ce terme en grec pérasmos, qui signifie aussi tentation ou même séduction, cause bien nombre de tristesses. Et pour ces chrétiens dont Pierre envoie cette épître, cette lettre, il y a de la tristesse, il y a des afflictions dans les vies. Il dira, pour un peu de temps, vous soyez attristés par diverses épreuves, par ces diverses pérasmos qui sont là. Et Pierre, dans tout son épître, va pas simplement rajouter ces épreuves-là, mais va parler des calomnies, va parler du mal qu'on peut nous faire, va parler des injures, des insultes, des reproches, des fausses accusations. Comment être joyeux lorsque dans notre vie, on vit ces choses-là? Comment être joyeux lorsque sur notre tête, il y a des nuages qui s'amassent? Lorsque on est frappé par diverses épreuves, quand toutes ces choses nous tombent dessus? On a tous été calomniés. On a tous eu quelqu'un qui nous voulait peut-être du mal. On nous a peut-être insultés. On nous a peut-être injuriés. On nous a fait des reproches. On nous a même fait de fausses accusations. Moi, je me retrouve dans cette catégorie-là. Et je peux promener mes regards. Je suis quasi sûr qu'on est tous passés par là, par ces différentes épreuves. Alors, comment être joyeux? À l'image de David, qui va exprimer cette plainte à Dieu. Jusqu'où cela va aller, dira-t-il? Jusqu'à quand l'Éternel m'oublieras-tu sans cesse? David, dans ce psaume 13, commence comme ceci. Mais jusqu'où cela va aller? Jusqu'à quand tu vas m'oublier? David a l'impression que Dieu ne l'intéresse plus, que Dieu n'est plus intéressé par lui, que Dieu a peut-être d'autres choses à faire, que Dieu peut-être s'occupe d'autres personnes. Vous savez, parfois, lorsqu'on prie, ou lorsque, même si on n'est pas croyant, on lève les yeux au ciel, on a l'impression que là-haut, il y a un répondeur, vous savez? Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Dieu. Voici, je ne suis pas là pour le moment, mais vous savez, vous pouvez laisser votre message après le bip. Et je vous rappellerai éventuellement. Bien nombre de personnes, même croyants, non-croyants, on a l'impression que Dieu ne nous répond plus. Il y a un répondeur là-haut et il est off. Dieu n'est plus là. Et David est dans cette même situation. Mais Dieu, jusqu'à quand je vais pleurer? Dieu, jusqu'à quand je vais crier? Jusqu'à ce que tu ne me répondes plus. Il dira ensuite, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Voir la face de quelqu'un, ça veut dire qu'on a une bonne relation avec cette personne. C'est un signe de faveur et un signe d'amitié. On a cette bénédiction des prêtres, que Dieu l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Dire que Dieu cache sa face reviendrait à dire que même Dieu ne bénit plus. Je vois tellement de nuages sur ma tête, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de bénédiction. Là-haut, le robinet il est fermé. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de grâce. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien pour moi. C'est terminé. La bénédiction n'est plus disponible. David dira encore, mais jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme au point de réfléchir à des plans, réfléchir à comment mener des stratégies? Et on est tous là-dedans. Lorsque le pays est en crise, lorsque on vit des temps difficiles, et on vit des temps particuliers aujourd'hui. Mais on réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait? On a des stratégies. On essaye de mettre en place des choses peut-être pour finir le mois. On essaye de trouver des solutions à droite et à gauche. Et David dira, mais jusqu'à quand je vais réfléchir à ça? Parce que ces choses-là me causent du chagrin dans mon cœur. Me causent de l'agonie. Me causent des douleurs. Jusqu'à quand? Dieu, tu vas m'oublier. Jusqu'à quand je ne verrai plus ta face? Jusqu'à quand j'aurai des soucis dans mon âme? Et il dira, mais jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand mon ennemi sera puissant? Et de cette même racine, en hébreu, on a Roma qui signifie exaltation, fierté, Romam, des chants de louange. Jusqu'à quand mon ennemi aura des chants de louange à mon égard? Jusqu'à quand mon ennemi sera fier? Vous savez, parfois, lorsqu'il y a des gens qui sont contre nous, lorsqu'on est dans l'abattement, alors ils sont fiers, ils sont là, ils vont répandre cette nouvelle à droite, à gauche, ils s'en réjouissent, ils nous calomnient, ils nous médisent, et ils sont heureux de voir qu'on est par terre. Chrétiens comme non-chrétiens, on est tous dans la même situation. Il y a peut-être un cœur cet après-midi qui dit à Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais vivre ça? Jusqu'à quand je serai au milieu de l'orage? Jusqu'à quand je serai au milieu du désert? Jusqu'à quand je serai dans les tempêtes? Jusqu'à quand, toi, Dieu, tu vas rester silencieux? Jusqu'à quand, Dieu, toi, tu vas te rester éloigné? Nuit et jour, je crie à toi, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas. Jusqu'à quand je vais rester seul? Vais-je être abandonné? On m'a abandonné, on m'a tourné le dos. Mais jusqu'à quand? Et là, pasteur, tu peux me dire qu'on peut être joyeux quand on vit toutes ces choses-là. Tu peux me dire qu'il y a un espoir pour moi. Tu peux me dire qu'il y a de l'espérance pour moi lorsque je vis toutes ces choses-là. Tu n'es pas à ma place. Tu n'es pas là lorsque je pleure la nuit. Tu n'es pas là lorsque y a cette fatalité qui a touché ma vie. Tu n'étais pas là, toi. Alors comment peut-on être joyeux lorsqu'on vit ces choses-là? J'aimerais vous dire qu'il y a un phénomène dans le milieu de la météo qui s'appelle une embellie. Vous savez, une embellie, c'est une amélioration du temps. C'est le temps qui devient beau juste après un orage. Ou lorsqu'on est en mer, lorsqu'on vient de vivre là une tempête, il y a comme un accalmie qui est là. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu peux vivre une embellie dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que ton embellie se cache justement derrière ces nuages qui sont là. Oui, il y a des nuages, mais il y a une pluie bienfaisante qui veut se déverser sur ta vie cet après-midi. Oui, il y a encore des déluges dans tes yeux. Oui, tu pleures encore. Oui, tu as du mal à essuyer les larmes de tes yeux. Mais après cette pluie et pendant cette pluie, il y a une embellie qui vient de Dieu. Et David va vivre une embellie et ça va le booster. Il va prier de la sorte. Il va proclamer sa foi, sa confiance en Dieu. Pas en un Dieu qui est imaginaire, pas en un Dieu qui est lointain, mais un Dieu qui fait des miracles. Et c'est ce Dieu que je vous annonce cet après-midi. On a un Dieu qui fait encore des miracles. Oui, il y a l'épreuve. Oui, il y a les pleurs. Oui, il y a la souffrance. Mais on a un Dieu qui est tout puissant. Et David va vivre cette embellie. David va proclamer sa confiance en Dieu. Il dira, mais moi, toujours au psaume 13 et la fin à partir du verset 5, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. La difficulté n'est toujours pas partie. Mais David décide de lever les yeux au ciel et il dira, non, moi, malgré toutes les difficultés que je viens d'énoncer, moi, je décide d'être tranquille. Je décide d'avoir confiance. Je décide d'être en sécurité. Avoir confiance en qui? On n'a plus confiance aujourd'hui. Même dans la religion, on n'a plus confiance. Mais David dira, je décide d'avoir confiance dans les bontés de l'Éternel. Dans ce terme en hébreu, recède, un amour immérité, une faveur inconditionnelle de Dieu pour les êtres humains. C'est en lui que je décide d'avoir confiance. Et où a-t-il manifesté cet amour inconditionnel, cet amour immérité? À la croix pour chacun d'entre nous. Je décide d'avoir confiance dans l'œuvre de la croix. Je décide d'avoir confiance en ce Dieu qui s'est donné, en ce Dieu qui a tout payé pour moi, qui a dit sur le bois de la croix, tout est accompli. Et qui y est monté par amour pour chacun d'entre nous. Moi, je décide d'avoir confiance en cet amour. Et David dira, parce que j'ai confiance en cet amour, alors j'ai de l'allégresse dans le cœur. Les épreuves ne sont pas encore passées. Les épreuves ne sont pas encore terminées. Mais le salut est là. Pour lui, David, dans le ciel, le salut est déjà acté, même s'il est en train de subir encore des épreuves. Et c'est paradoxal ce que je vais dire, mais David dira, je gil en hébreu. Gil signifie danse de joie. Dans mon cœur, il y a comme des danses qui sont là. Dans mon cœur, il y a comme une farandole. On pourrait tous se lever et faire la farandole peut-être cet après-midi. Mais dans le cœur de David, c'est la joie, c'est la réjouissance. Pourquoi il a décidé de faire confiance? C'est paradoxal, la joie dans l'épreuve. Les danses de joie dans l'épreuve. Mais parce qu'au centre, il y a Jésus-Christ. Il se met même à chanter pour tout le bien que Dieu lui fait. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'il traverse, vous connaissez tous ce verset, la vallée de Baca, la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre cet après-midi, mais si toi aussi tu passes par cette vallée d'épreuves, de l'épreuve, cette vallée des pleurs, mets ta confiance en ce Dieu qui dans ton cœur peut mettre des danses, qui dans ton cœur peut mettre une joie. Décide de faire confiance. Lorsque j'étais tout petit, il y avait cette chanson que j'ai appris à l'école du dimanche, qui est encore d'actualité pour chacun d'entre nous, qui dit « Ma vie est une toute petite coquille de noix, placée au milieu de l'océan furieux. » Mais regardez ce que ce chant dit, et on l'apprend au tout petit. « Mais je sais que jamais elle ne coulera, parce que je l'ai mise dans les mains de mon Dieu. » Ta vie cet après-midi, toi qui vis l'épreuve, toi qui vis la souffrance, dans quelles mains as-tu mis ta vie? Peut-être tes propres mains. C'est toi qui décides, c'est toi qui es maître dans ton bateau. Mais j'aimerais te dire que tu vas subir le naufrage. Les tempêtes, les vagues vont s'abattre sur ton bateau. Si c'est toi qui pilotes, si c'est toi qui conduis, tu as confiance en toi-même. Et à un moment donné, il y aura le naufrage. Mais ce chant qu'on apprend au tout petit nous dit, ma vie, ouais, c'est comme une petite coquille de noix, c'est tout petit, c'est même insignifiant. Ma vie, elle n'a pas de valeur, j'ai pas de valeur aux yeux des uns et des autres qui sont autour de moi. On m'a même méprisé, on m'a même mis de côté. Mais quand cette petite noix de coco est placée dans les mains de Dieu, dans les mains de Jésus-Christ, je sais que l'orage va s'abattre sur moi. Je sais que le vent va souffler, le vent va faire un bruit qui est terrible, la mer va s'agiter. Mais au sein de l'orage, je ne craindrai rien, car Jésus a promis de veiller sur moi. Et là, pendant que je suis en train de parler, tu peux réitérer cette promesse à Dieu. Dieu, tu as promis de veiller sur moi. Dieu, tu vois ce que je suis en train de vivre. Tu vois, oui, que sur mon visage, il y a des larmes. Mais tu as promis de veiller sur moi. C'est ce que cet homme a écrit, un chanteur aux États-Unis qui s'appelle Chris Kilala. Il a écrit ce chant qu'on appelle Miracle. Parce que, au mois de décembre 2014, il dira, et je vous le lis, ma femme et moi, nous avons perdu notre petit garçon Jethro Dylan Kilala. Pendant que ma femme travaillait dans la chambre d'hôpital, nous prions et nous croyons que Dieu allait faire un miracle. Et il dira, mais les Écritures regorgent d'histoires où Dieu fait des miracles, où Dieu a compris des choses. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est proclamée. Mais ce chanteur dira, nous n'avons pas vu notre fils Jethro revenir à la vie. Alors que nous le prenions dans nos bras, on était en train de prier. Et on avait fait un choix, et nous avions un choix devant nous. Croire que Dieu est bon en tout temps, peu importe le résultat, et qu'il est et sera toujours le Dieu des miracles. Et il cite ce psaume 77 qui dit « Je me souviendrai des actions du Seigneur. Oui, je me souviendrai de tes miracles d'autrefois. Je considérerai toutes vos œuvres et méditerai sur toutes vos actions puissantes. Tes voies, Dieu, sont saintes. Quel Dieu est aussi grand que notre Dieu ? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu déploies ta puissance parmi les peuples. » Et il dira, souvent en tant que croyant, nous permettons à nos circonstances de changer notre perception de Dieu. Mais il dira la vérité, c'est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ma femme et moi, dira-t-il, pourrions être coincés en tournant en rond en demandant à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi on n'a pas vu le miracle ? Nous avions espéré, pourquoi Dieu ? Et même lever le poing contre Dieu, accuser les autres, dire mais c'est la faute à un tel, c'est la faute à ceci, c'est ta faute Dieu. Et il dit, je le cite, au lieu de douter de Dieu face à des circonstances contraires, nous avons choisi d'aller vers lui, de lui faire confiance et de nous accrocher encore plus à lui. Et il dira, j'ai écrit la chanson Miracle parce que plus que jamais, j'avais besoin de me rappeler constamment qui est Dieu. Et il dira, et il écrira, celui qui fait l'impossible me tend sa main et œuvre en moi. Celui qui a mis la mort en place, à sa place, sa vie coule en moi. Et le refrain de ce chant nous dit, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Beaucoup d'entre nous, et peut-être certains qui est là cet après-midi, n'ont plus un cœur qui résonne aux promesses de Dieu. Parce que tu as eu tellement d'épreuves. Tu as mis ta confiance dans une religion, tu as mis ta confiance dans une routine. Je viens à l'église. Je fais semblant devant les personnes, je fais semblant devant les uns et les autres, mais à l'intérieur, je n'y crois plus. À l'intérieur, j'ai plus de foi, je ne crois pas, ça ne sert à rien de me dire quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que tu as, vous, ou moi, ou tu, as oublié qui était Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il reste le même. Et je crois cet après-midi en un Dieu qui est en mesure de te relever, un Dieu qui est en mesure de te sortir de ta situation et remplir ton cœur de joie. Cet homme dira, à travers la tempête, il reste le même. Il est bon, il est notre consolateur. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre vie, ne perdez pas espoir. Continuez à croire et ayez la foi pour voir des impossibilités s'incliner devant son nom. Je te le redis cet après-midi, notre Dieu est le Dieu des miracles. Et moi qui suis là devant vous, vous allez me dire, mais peut-être qu'il est jeune, il n'a jamais vécu telle et telle souffrance. Mais vous savez, lorsque un médecin vient vous dire que, désolé, l'enfant que votre femme porte n'a plus la vie. Ou encore ces trois dernières semaines en arrière, lorsque on vous appelle, mes parents sont à Mayotte, et on vous appelle en disant « mais ta maman vient de faire un arrêt cardiaque ». On essaye de la ranimer, on a réussi, mais le cœur est faible. On décide de croire en qui ? Ou lorsque, après maintes et maintes fois, après avoir perdu un enfant, on essaye et on essaye et on essaye d'avoir un enfant et la médecine vous condamne en disant « mais c'est plus possible à toi, c'est plus possible, c'est impossible d'avoir des enfants ». On décide de croire en qui ? Est-ce qu'on décide de garder cette tristesse dans le cœur ? Ou on décide de lever les yeux au ciel et de dire « je sais que j'ai le Dieu des miracles qui est là-haut. Je sais sur en qui ma foi est basée. Je sais sur qui, en qui j'ai cru. J'ai cru en un Dieu qui n'est pas lointain, mais un Dieu qui vit en moi. Et ce Dieu, c'est le Dieu des miracles qui est en mesure d'agir dans ma situation. Je l'ai vécu. Mais au travers de toutes ces épreuves, c'est notre foi qui est mise là au creuset pour y être affinée. Quelqu'un dira, l'or, même ayant passé par le feu du creuset, est destiné à s'user et disparaître tôt ou tard. Mais la foi persévérante est promise à la vie éternelle. C'est ce que Pierre est en train de nous dire dans cet épître que on a choisi pour la convention. Il dira, puisqu'il faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, et j'en ai parlé dans cette peut-être première partie, Pérasmos. Mais le verset 7 nous dit, afin que l'épreuve, c'est pas du tout le même mot, c'est dokimion, qui vient de dokimasia, l'examen, le test. Oui, il y a des pérasmos, oui, il y a des épreuves, mais cela conduit à un examen. Cela conduit au test de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Mais pour résultat, qui a pour résultat? La louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est ce que Jacques dira, pareil, avec ces deux mots épreuve. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, pérasmos en grec, encore une fois, auxquelles vous êtes exposés, sachant qu'il emploie un autre mot, l'épreuve, dokimion, de votre foi, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Lorsqu'on lit la Bible, et en particulier ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on voit des hommes et des femmes qui ont réussi leur examen de foi. Le test a été validé. Oui, il y a eu des difficultés. Je vous invite à lire toute cette série d'hommes et de femmes que relate l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'examen de foi pour ces hommes et ces femmes, l'examen est validé. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en un Dieu qui fait encore des miracles. C'est ce même Dieu qui veut agir pour vous encore une fois. Vous allez me dire, mais c'est long. Je ne sais pas depuis combien d'années l'examen dure pour moi. Eh oui, c'est vrai, je ne sais pas. C'est long parfois l'examen de notre foi. Ça dure longtemps. À l'image peut-être de cet homme. Se trouve dans les évangiles. Lui, son examen de foi a duré 38 ans. 38 ans courbé, 38 ans paralysé, croulant sur le poids de la religion, croulant sur des superstitions. Mais moi, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Mais Jésus passe par là et lui pose cette question, littéralement. Veux-tu revenir à la vie? Et Jésus prend autorité en disant aux membres qui souffrent, lève-toi. Cette jambe ou ce membre qui était paralysé, lève-toi. Et il dira à cet homme, prends ton lit et marche. Ou encore cette femme, examen aussi, depuis 18 ans. Cette femme, Satan tenait liée. Elle était courbée. Oui, la souffrance. Oui, le diable est là pour nous mettre dans des souffrances. Mais Jésus apparut pour détruire les œuvres du diable. Jésus est venu dans la vie de cette femme. Examen, 18 ans. 18 ans d'infirmité. 18 ans où elle était courbée. Mais Jésus pose sa main sur cette femme. Et cette femme se redresse et elle est guérie. Ou encore, cette autre femme. Elle, c'est 12 ans. 12 ans avec une perte de sang. 12 ans où elle est exclue. 12 ans où elle ne peut même pas s'approcher de la foule. Mais cette femme ose la foi. Cette femme ose toucher simplement le bord là du vêtement de Jésus. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a guéri. Oui, l'examen pour toi dure longtemps. Mais est-ce que tu es prêt à toucher Jésus? Ah, mais je ne le vois pas. Mais peut-être qu'il veut venir dans ta vie et dans ton cœur. L'examen dure longtemps pour toi. Mais est-ce que tu crois qu'il peut poser sa main sur toi et te délivrer complètement? Je ne sais pas comment le diable t'a mis. Je ne sais pas quelle épreuve, quelle mainmise est sur toi. Oui, le diable, la puissance du malin gît dans ce monde. Mais je crois en un Dieu qui a détruit la mort. Je crois en un Dieu qui est tout puissant et il a détruit les œuvres du diable. Parce qu'au nom de Jésus, ils chasseront des démons. Au nom de Jésus, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous croyez encore à l'évangile, l'évangile de la grâce? Oui, ça fait longtemps que tu n'as pas vu de miracle. C'est pour ça que tu ne crois plus. Ça fait longtemps que tu as cette vie de religiosité parce que tu ne vis plus, tu ne vois pas, tu n'as pas encore vu le miracle. Mais ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que le miracle n'est pas encore là et que le miracle n'est pas pour toi. Alors j'aimerais terminer au travers de ce que le psalmiste Asaph dira dans le psaume 73. Il va mettre des mots sur sa souffrance, il va dire « Je dis ce qui fait ma souffrance ». Il va dire ce qui fait sa souffrance. J'aimerais te dire « Mets des mots sur ta souffrance ». Le terme en hébreu signifie « devenir malade ». Qu'est-ce qui te rend malade? Qu'est-ce qui te rend sans force? Qu'est-ce qui a enlevé la joie dans ton cœur? Ce terme signifie même tordre de douleur. Qu'est-ce qui te tord de douleur cet après-midi? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui te rend comme ça. Je ne sais pas ta souffrance. Je ne sais pas ton épreuve. Je ne sais pas si c'est moral, physique, mental, spirituel, psychique ou autre. Je ne sais pas. Mais lui le sait. Mais lui le sait. Que tu sois croyant ou non, lui de là-haut, il te voit. Comme il dira à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris, les gémissements que lui font pousser ses oppresseurs. Et Dieu ajoute, je suis descendu pour le délivrer. Je te vois. Toi qui as suivi toute cette convention chrétienne des évêques. Je te vois lorsque tu vas à l'église, je te vois lorsque tu te réunis. Mais je suis venu pour te délivrer. Cet après-midi, je veux te délivrer. Comme il a interpellé cet homme couché depuis 38 ans, il te pose cette question. Veux-tu revenir à la vie? Depuis combien de temps fais-tu semblant? Depuis combien de temps ça ne va pas? Depuis combien de temps tu n'as pas eu une vie véritable? Et cet après-midi, il est celui qui te donne la réponse. Il te dit, ce sont tes souffrances que j'ai portées. Ce sont tes douleurs dont je me suis chargé. Et c'est par mes meurtrissures que tu es guéri. C'est par mes meurtrissures que tu es en mesure d'avoir une joie dans ton cœur. Simplement par amour pour toi. Voici ce que j'ai fait pour toi. Par amour pour toi. Voici ce que je suis en mesure de faire pour toi. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes et rester dans ce temps de recueillement? Et peut-être donner l'opportunité à différentes personnes de revenir à la vie. Différentes personnes qui passent par des épreuves, d'avoir dans son cœur une joie pas fabriquée. Une joie non pas parce qu'on a entendu des messages tout ce week-end, mais une joie qui vient véritablement de Dieu. Et là où tu te trouves, j'aimerais simplement, et je pourrais peut-être faire lever les mains, comme peut-être vous avez peut-être vu ou entendu, pour peut-être voir qui est là, peut-être on voir, ou peut-être se dire, mais il y a différentes personnes qui étaient dans la souffrance. Ah, c'est très bien, non? c'est entre toi et ton Dieu. Et là où tu te trouves, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu as subi, mais je sais une chose, c'est que dans ton cœur, Dieu veut te guérir. Et là où tu te trouves, on a les yeux fermés, simplement la possibilité de mettre ta main sur ton cœur et de laisser dans ce cœur faire revenir une foi en Jésus et de lui dire « Oui, je crois en toi. » Tu peux le dire à haute voix, à voix basse, comme tu le veux, mais en mettant ta main sur ton cœur, dire à Jésus « Je crois en toi. » Et dans ma situation, tu es le Dieu des miracles. Dans ma situation, tu es le Dieu de toute consolation. Dans ma situation, tu es le Dieu de toute espérance. Et peu importe le temps que ça va durer, si l'examen dure encore et encore, je veux tenir bon cet après-midi. Je veux ressortir de ce lieu en ayant une joie qui vient de toi. Je te laisse mettre et faire cette prière. Et on va tous, je vais me mettre au piano. Tu peux afficher les premières paroles de ce chant. Juste écouter ou même chanter cette prière qui dit « Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. » Et le refrain nous dit simplement « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. » Père, je sais une chose, c'est que tu domines les tempêtes. Et dire à Dieu cet après-midi, c'est notre prière. Dire à Dieu tout simplement, je suis tranquille parce que tu es là. On peut rester dans ce temps de recueillement et laisser le Seigneur repasser ses paroles dans notre vie. Il est le Dieu des miracles. Il veut venir à ta rencontre cet après-midi. Faire cette prière avec moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Par ta main puissante. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, et là. En Jésus seul, je me confie. En Jésus. Je me confie, il me donne force, calme et puissance. Force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Tu domines les temps. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai à Père, tu domines. Suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille et là. Je suis tranquille, car tu es là. Dites-lui, je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Seigneur, merci. Parce que dans nos tempêtes, dans nos épreuves, dans nos souffrances, dans nos tentations, dans nos examens de foi, nous pouvons compter sur toi. Et je veux simplement te prier pour tous ceux qui ont peut-être mis leurs mains sur leur cœur, qui ont eu besoin de consolation, qui ont besoin d'être relevés, qui ont besoin d'être guéris. C'est qu'en ton nom, en ton temps, tu agis parfaitement dans leur vie, dans leur corps et dans tout leur être, dans leur famille, dans ce qui les trouble. Au nom de Jésus, tu viens apporter la paix. Nous pouvons dire tous ensemble cet après-midi, nous ressortons de ce lieu en ayant cette joie non pas fabriquée, mais une joie qui nous tranquillise. Parce que toi, tu es là. Merci pour qui tu es, Jésus. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute l'honneur. Tout l'honneur. Amen. Amen. J'aimerais laisser la place à la chorale de la mission Timothée qui conduiront dans un chant.